Bonjour à toutes et tous. On n'a pas l'impression d'être à la fin du mois de juillet quand on voit l'église aussi remplie. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir toutes et tous, les personnes qui nous rendent visite. Les enfants sont avec nous pendant le culte. On est heureux aussi de pouvoir vivre ce culte tous ensemble. Et pour commencer ce temps d'enseignement, j'aurais une question à vous poser avec trois portraits. À votre avis, quel est le point commun entre les trois personnes qui s'affichent à l'écran? Déjà, est-ce que vous en reconnaissez certains? Alors, les plus de 50 ans reconnaissent Enrico Macias, voilà, donc qui est un chanteur bien connu. Et les deux autres? Alors, les deux autres, il y a le monsieur en bas, il s'appelle Jean-Pierre Demerler, et c'est un retraité qui vit sur la Côte d'Azur. Voilà. Et la dame, c'est Leslie Milton, une retraitée britannique qui vit en Espagne. Voilà. Donc là, je pense que vous auriez eu du mal à savoir qui c'est. Hein. Le point commun entre ces trois personnes, c'est qu'elles ont vécu ce dont parlent les trois versets sur lesquels on va méditer ce matin. Ils ont mis tout leur argent, toutes leurs économies dans une banque qui a fait faillite en 2008 dans le cadre de la crise financière, une banque islandaise, et ils ont été ruinés. Peut-être que vous avez entendu Enrico Macias, il y a eu des procès, etc. Il a été ruiné. Des richesses qui ont été placées au mauvais endroit, et comme résultat, toutes les économies d'une vie, la maison hypothéquée, etc., qui ont disparu. Et ce matin, nous allons parler de richesses, de trésors, dans trois versets qu'on va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 19 à 21. Et c'est Jésus qui parle. On va les lire dans la version du semeur. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mite qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Un très court passage qui se trouve dans cet enseignement de Jésus qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui dure plusieurs chapitres dans l'évangile de Matthieu. C'est un passage court, mais on reconnaît la force habituelle des paroles de Jésus, le caractère provocateur un peu, et cette formule qui fait mouche, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Que nous disent ces trois versets? Est-ce que ici le problème que souligne Jésus, c'est le fait de s'amasser des trésors, de s'amasser des richesses? Non, ce n'est pas tellement ça le problème. Ce qui est souligné, c'est l'endroit où on amasse ces richesses, l'endroit où on place ce trésor. Est-ce que ce trésor, on le place sur terre ou est-ce qu'on le place au ciel? Et l'encouragement, l'instruction de Jésus, c'est de viser le ciel. Viser le ciel pour ton trésor. Voilà ce sur quoi on va essayer de réfléchir ce matin. En se posant deux questions. La première, qui peut sembler un petit peu simple, enfantine, c'est qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que le ciel quand Jésus met en contraste la terre et le ciel comme il le fait ici? Et une fois qu'on aura mieux compris ce qu'est le ciel, la deuxième question, c'est comment faire pour placer notre trésor, amasser des richesses au ciel? Poser la question, qu'est-ce que le ciel? Alors, les enfants, il y en a qui disent derrière, mais il y en a qui sont aussi là-haut, là, des plus jeunes, Alice. Alors, si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est le ciel? Qu'est-ce que vous répondez? Il y a quelqu'un qui veut essayer là-haut, parmi les enfants? Personne? Parmi les ados, là, je vois, il y a Miss Ghana et Timothée, qui lèvent leur téléphone, qui lèvent le nez de leur téléphone, du coup. C'est quoi le ciel, pour vous, quand on vous dit le ciel? Vous pensez à quoi? Non, ils sont trop timides. Tout le monde sait ce que c'est le ciel. Il suffit de sortir et de lever la tête. Quand il fait beau, c'est tout bleu. Quand il fait moyen comme aujourd'hui, c'est gris clair. Ça peut être gris foncé, ça peut être noir. La nuit, il y a des étoiles, la lune. Le jour, il y a le soleil, des nuages. En anglais, le ciel, on utilise le mot « sky », c'est le ciel. Mais le mot « ciel », il a un deuxième sens, un sens qui est moins commun, qu'on utilise moins dans la vie de tous les jours, qu'on va plutôt trouver dans la Bible, dans notre passage par exemple. Et ce sens, ce deuxième sens du mot « ciel », c'est le domaine de Dieu. Le domaine où Dieu existe, agit, est souverain de manière incontestée. Et l'anglais a un deuxième mot différent pour cela. Alors je me tourne vers nos frères anglophones. Quel est le deuxième mot en anglais qu'on utilise pour parler du ciel dans ce sens-là ? Heaven, heaven, exactement. En français, on n'a qu'un seul mot. En grec aussi, il n'y a qu'un seul mot, Uranos. Mais l'anglais a distingué ces deux sens. Et on va essayer de creuser un peu le sens du ciel, heaven. Dans notre texte, l'approche est la suivante. La terre, c'est le domaine où nous vivons, où vivent les humains, les animaux, toutes les créatures de Dieu. On l'appréhende avec nos cinq sens, il est visible. Et c'est un monde qui souffre des conséquences du péché. C'est un monde où l'autorité de Dieu peut être contestée, refusée ou dévoyée. Dieu reste souverain, mais ses créatures peuvent refuser son autorité. Le ciel, heaven, c'est le domaine de Dieu, de toutes les créatures célestes. C'est un domaine qu'on ne perçoit pas par nos sens. Et c'est un domaine où aucune créature ne peut contester l'autorité de Dieu. D'une certaine manière, si on lit la Bible du début à la fin, au tout début du livre, le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Et au tout début du livre de la Genèse, on peut voir le jardin d'Éden comme un espace où ces deux réalités existaient ensemble. Elles étaient parfaitement unies. L'homme, la femme, les animaux, toute la création était en parfaite harmonie avec Dieu. Mais depuis que l'homme s'est rebellé, il y a une séparation. La terre et le ciel sont deux réalités qui existent simultanément, mais qui sont distinctes, qui sont séparées, un peu comme ces deux cercles. Et tout le message de la Bible, après Genèse 3, peut être une manière de le voir, c'est d'essayer de décrypter la manière dont le ciel va rejoindre la terre. Et ça commence dès l'Ancien Testament. Dans certains cas, Dieu se révèle directement à certaines personnes. On peut penser par exemple à Moïse, avec l'épisode du buisson ardent sur le mont Sinaï. Dans certains cas, on nous raconte aussi des expériences très étonnantes, comme si des fenêtres s'ouvraient entre la terre et le ciel. Pensons par exemple à Jacob, ceux d'entre vous qui ont déjà lu ce texte, qui dort et qui a une vision avec des anges qui sont sur une échelle qui rejoint le ciel « heaven ». Et puis il y a également des êtres qui circulent entre ces deux mondes, ces deux réalités. C'est justement les anges, les messagers de Dieu, qu'on voit tout au long de la Bible, qu'on voit dans le songe de Jacob, mais qu'on voit aussi annoncer à Marie qu'elle allait mettre au monde le Messie, que l'on voit aussi libérer l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Donc les anges sont des êtres célestes qui font un peu l'aller-retour entre le ciel et la terre. Et plus rarement, on voit aussi des mouvements de la terre vers le ciel. Par exemple, le prophète Élie nous est dit qu'il a été emmené au ciel. Et dans le Nouveau Testament, Jésus est aussi remonté au ciel. C'est ce que nous célébrons à l'Ascension, ce dont nous rappelons à l'Ascension. Et la venue de Jésus-Christ, c'est une étape cruciale dans ce rapprochement entre le ciel et la terre. En Jésus, avec la venue de Jésus, le ciel s'est rapproché de la terre. Il y a une intersection. Jésus, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et quand Jésus prend la parole, lorsqu'il enseigne ses disciples, il va utiliser l'expression de ciel qu'on a dans notre texte de ce matin. Il va aussi utiliser l'expression de royaume de Dieu, qui est très proche, ou l'expression de vie éternelle qu'on va trouver plutôt chez l'apôtre Jean. Et toutes ces réalités, là, royaume de Dieu, ciel, vie éternelle, elles ont des nuances, mais elles ont la même signification profonde. Et nous, en tant que disciples de Christ, en ayant reçu l'Esprit Saint, nous sommes à l'intersection entre ces deux mondes. Nous sommes à la fois sur la terre, comme disait Jean-Pierre, on le ressent, hein, on a un corps, on vit sur la terre et on est pleinement humain. Mais nous avons déjà aussi un passeport. Nous sommes citoyens du ciel, dans le sens que l'apôtre Paul parle également dans une de ses lettres aux Philippiens. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là, mais c'est une situation où le rapprochement est encore incomplet. Et c'est seulement dans le tout dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qu'on a toute une série de visions, de fenêtres ouvertes. Là, l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit l'Apocalypse, il voit des tableaux qui se succèdent, des sortes de fenêtres ouvertes sur la réalité du ciel. Et en Apocalypse 21, donc tout à la fin du livre de l'Apocalypse, on voit comment le ciel et la terre sont à nouveau parfaitement et pleinement réunis. Lisons ensemble ce texte qui est saisissant. Donc c'est l'apôtre Jean qui parle et qui retranscrit la vision qu'il a eue. « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu, avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Quelle vision extraordinaire! Le ciel qui descend sur la terre. Il ne vient pas remplacer la terre, mais on retrouve une situation où Dieu habite pleinement, où son autorité est incontestée, il habite pleinement avec ses créatures. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Et en attendant cette réunion finale d'Apocalypse 21, ces deux domaines, la terre et le ciel, continuent à coexister en étant en partie disjoints. Il y a une tension entre les deux. Et cette tension, on la retrouve dans ce texte-là. Elle est soulignée par Jésus. Les richesses terrestres, elles sont... Comment on pourrait les qualifier, ces richesses terrestres? Éphémères. Comment? Périssables, fragiles. Comme la fortune d'Enrico Macias et de nos deux autres retraités. On pense des fois avoir trouvé un bon plan, un bon filon, mais ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Les richesses célestes, c'est tout l'inverse. Elles sont permanentes, elles sont éternelles. Et donc Jésus encourage ses disciples, il nous encourage à viser le ciel pour y avoir un trésor permanent, un trésor qui sera toujours là quand la vision d'Apocalypse 21 se réalisera. Voilà, on a un petit peu mieux... Éternel, qui est le ciel, heaven. Maintenant, essayer de répondre à la question, mais comment peut-on placer notre trésor au ciel? Comment peut-on y amasser des richesses? Alors, pour répondre à cette question, on peut essayer de regarder ce dont Jésus parle juste avant. Regarder ce qu'on appelle le contexte de nos versets. C'est toujours important, surtout quand on choisit comme ça, hop, trois versets, c'est toujours très important de regarder ce qui entoure ce passage. Juste avant, donc dans ce grand texte du Sermon sur la montagne, Jésus a parlé de la prière. C'est là qu'il va notamment enseigner la prière qu'on appelle le Notre Père. Et il a également parlé du jeûne. Et dans ces deux enseignements sur la prière et le jeûne, Jésus met en opposition le fait de vouloir être bien vu des hommes en disant « Ouais, toi tu sais bien prier, tu as fait une belle prière ». Ou toi tu jeûnes, tu prends du temps, ça se voit, hein, d'être approuvé par les hommes d'un côté, et le fait d'être approuvé par Dieu, mais de manière discrète, de manière pas ostentatoire, mais dans l'intimité de son cœur. Donc juste un peu avant, Jésus n'utilise pas le mot ciel-terre, mais c'est exactement la même chose dont il parle. Jésus insiste pour que le cœur de ses disciples s'attachent à Dieu plutôt qu'aux hommes, à viser le ciel plutôt que la terre. Mais pourquoi est-ce que Jésus insiste autant sur le jeûne, sur la prière, sur le fait d'avoir des trésors? Je pense que Jésus insiste autant parce que viser la terre, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel. Recevoir les félicitations des hommes, c'est tellement gratifiant. Et puis c'est gratifiant immédiatement, il n'y a pas besoin d'attendre la fin des temps. Et je pense qu'aussi bien à l'époque de Jésus qu'aujourd'hui, beaucoup de choses nous poussent à limiter notre horizon à la terre. Le cœur humain, pour commencer, on va au plus facile, hein, si on est honnête. Le discours majoritaire aussi, dans lequel on baigne, en Occident notamment, à travers le temps qu'on va consacrer aux médias, le message qui sont véhiculés aussi pour la consommation à outrance, le rationalisme poussé jusqu'à l'excès aussi. Et donc on baigne dans cet environnement culturel qui nous pousse à ne pas forcément lever les yeux vers le ciel, à ne pas viser le ciel. Alors il y a des signaux qui montrent qu'il y a une tendance inverse, quand on entend la jeunesse qui s'inquiète de son avenir face à la crise climatique, quand on constate que le rationalisme poussé à l'excès, ça crée aussi une sécheresse spirituelle, une perte de sens de la vie. Mais ça reste encore des signaux faibles qui, le courant majoritaire dans lequel on baigne, je pense au travail, à la maison, quand on écoute les médias, c'est comme si on mettait une casquette. C'est l'été, alors on met les casquettes. Vous voyez, avec une sorte de visière très longue, où c'est difficile de lever les yeux. Hein. On voit que ce qui est au niveau de la terre. Et je pense que la première des choses à faire pour amasser des trésors vers le ciel, c'est d'enlever cette casquette, de se rappeler chaque jour que la terre, oui, nous sommes humains et la terre, c'est notre lieu naturel de vie. Et même après Apocalypse 21, on habitera toujours sur la terre, dans ma compréhension en tout cas du texte, avec le ciel qui nous aura rejoints. Mais nous ne sommes pas que de la terre, nous sommes aussi du ciel en tant que disciples de Jésus. Il y a un choix à faire. Presque chaque jour, est-ce que aujourd'hui je veux viser le ciel ou est-ce que je reste sur l'horizon de la terre? J'aimerais vous proposer un moyen très simple pour cela. Si vous avez une imprimante à la maison, ce n'est pas notre cas, ma femme me le rappelle souvent. Voilà, quand vous rentrez, vous allez sur Google, vous tapez le verset, là où est ton trésor sera ton cœur. Vous allez trouver ces images-là, il y a des super visuels qui ont été faits, vous en imprimez un. Vous le mettez sous un cadre, si vous voulez, et puis vous le mettez à un endroit où vous êtes le matin. Là, vous prenez votre café, sur la porte des toilettes. Et pour avoir ce rappel-là, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a même des mugs. Voilà. J'ai essayé de les commander, mais c'est en Belgique et bon, ça ne marche pas. Voilà. Sinon, voilà, c'est sympa aussi. Hein. Se rappeler, juste se rappeler, se redire, mais oui, c'est vrai, il y a un choix à faire. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est la première étape importante, se rappeler qu'il y a un choix à faire. Mais ensuite, pour suivre l'enseignement de Jésus, il faut aller plus loin. Faire le bon choix. Mettre la priorité au bon endroit, viser le ciel, que notre vie tout entière, notre cœur, notre vision du monde soit orientée vers Dieu. Parce que quand Jésus utilise l'expression d'amasser des trésors, y a une action, il y a une recherche volontaire, on mobilise notre volonté, on mobilise notre action, on ne reste pas assis dans le canapé ou couché dans le hamac à attendre que l'heure tourne en regardant l'horloge du Big Ben par exemple. Et en réfléchissant aux différents domaines de notre vie, Il y a des exemples de personnes dans l'histoire de l'Église qui me sont venues à l'esprit pour illustrer ce choix de viser le ciel, d'amasser des trésors dans le ciel. Alors, on va avoir trois nouvelles photos. Alors, est-ce que vous en reconnaissez déjà le tout premier? Donc là, ce n'est pas une photo, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas inventé. À votre avis, qui est le premier avec la tonsure, là? Ouais, François d'Assise, que l'Église catholique appelle Saint François. Alors, François d'Assise, il a une histoire assez particulière. Hein. Il est issu d'une famille très riche qui vivait en Toscane. Son père était marchand de draps, de tissus. Et à l'époque, voilà, c'était une culture chrétienne. Alors là, c'était pas possible de ne pas être chrétien, entre guillemets. Mais à l'âge de 24 ans, François vit une conversion intérieure, une conversion du cœur. Il décide de consacrer toute sa vie à Dieu, de viser le ciel. Et pour François d'Assise, ça a notamment consisté à refuser toute richesse, tout bien matériel, de vivre une vie de pauvreté. Et d'ailleurs, en italien, hein, Carmela, le surnom de François d'Assise, c'est « il poverello », le pauvre. Alors, vous imaginez que son papa, qui comptait sur lui pour reprendre l'affaire familiale, n'a pas du tout apprécié. Donc, il a déshérité François. Et il y a un épisode qui est resté célèbre, où justement, François voit son père dans la ville d'Assise avec plein de témoins, et il décide symboliquement de lui donner tout ce qui lui appartient. Il va même jusqu'à se dénuder complètement, en disant, voilà, je ne garde rien de cette vie matérielle. Et on rapporte ces paroles qu'il aurait prononcées à ce moment-là. Ah, si tu peux juste passer la slide d'après. Ah, d'accord. Ok. Il y a juste un petit décalage avec la tablette. Enfin, jusqu'ici, je t'ai appelé Père sur la terre, donc il parle à son Père. Désormais, je peux dire Notre Père qui êtes aux cieux, puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. François d'Assise consacre donne toute sa richesse pour vivre une vie de pauvreté. Alors, je reviens en arrière. Ouais. La deuxième, c'est un peu plus dur, surtout dans une église protestante évangélique. la deuxième image. Pardon? Ah, quelqu'un qui... Ok. C'est une jeune fille qui a 15 ans sur cette photo. Une jeune fille qui ensuite meurt à l'âge de 24 ans de la tuberculose, à l'âge où François d'Assise s'est converti. Elle s'appelle Thérèse Martin et elle est plus connue sous le nom de Thérèse de Lisieux. Et dans l'Église catholique, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors moi qui suis protestant, né dans une famille évangélique, j'ai déjà entendu parler de Thérèse de Lisieux, mais pour moi, voilà, c'est... Alors je ne veux pas choquer nos frères et sœurs catholiques, mais voilà, pour moi ça faisait vraiment partie Bernadette Soubirous, les apparitions mariales, tout ça, c'est vraiment des choses dont, légitimement, en tant que protestant, on se tient très éloigné. Donc je ne connaissais pas du tout, en fait, la vie de cette jeune adolescente. Et j'ai entendu récemment un podcast dans la marche de l'histoire, qui était consacré à Thérèse Martin, Thérèse de Lisieux. Et en fait, j'ai appris que cette personne-là, elle a vécu une vie dans le plus grand anonymat. C'est seulement bien après, c'est quelques années après sa mort qu'il y a eu tout ce développement de culte autour de sa personne, et qui, à mon avis, est absolument... Donc il faut se tenir éloigné, mais c'est quand même intéressant. J'ai été vraiment frappé en écoutant cette émission, de cette jeune adolescente de 14 ans qui a voulu entrer par amour pour Jésus dans un couvent de carmélites. Et dans un couvent de carmélites, ce que je ne savais pas non plus, c'est que l'on consacre minimum 8 heures à la prière chaque jour. Et donc, en fait, c'est une vie de prière quasi continue. Et on lui a même dit, non, 14 ans, c'est trop tôt, il faut attendre 15 ans. Donc, elle a patienté encore une année, et à 15 ans, elle est entrée... dans ce couvent, elle a vécu 9 ans avant de mourir à 24 ans. Ce qui m'a frappé, c'est ce souhait de cette jeune ado de passer sa vie dans la présence de Dieu à prier. Et enfin, dernière image, donc là je vous rassure, on est nouveau chez un évangélique protestant pur jus. Hudson Taylor, ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet homme, impressionnant aussi, hein. Un des premiers missionnaires en Chine, à l'époque où l'Empire chinois était un empire très puissant, mais assez fermé par rapport aux cultures occidentales. Et ce qui est vraiment intéressant avec Hudson Taylor, et ça se voit sur cette image-là, c'est qu'il n'est pas venu, un peu, on dirait aujourd'hui, un impérialisme colonial, etc. Non, il a vraiment voulu s'approcher de la culture chinoise, apprendre. Il a appris plusieurs langues chinoises. Vous voyez qu'il s'habillait comme les Chinois. Il s'est laissé pousser les cheveux, il avait une natte. Et Hudson Taylor venait aussi d'un milieu complètement chrétien, à l'époque, en Angleterre. Mais il a vécu cette conversion, sans doute la même que François d'Assise, à l'âge de 17 ans. Et il y a 21 ans, il est parti seul en Chine. Il a quitté sa famille, qui était plutôt aisée. Il a quitté son pays parce qu'il avait un amour pour ce peuple chinois. Et voici ce qu'il écrit à sa sœur, alors qu'il avait 28 ans. Voilà. Si je possédais 1000 livres sterling, la Chine devrait les avoir. Si j'avais 1000 vies, la Chine pourrait réclamer chacune d'elles. Non, pas la Chine, mais Christ. Pouvons-nous faire trop pour lui? Pouvons-nous faire assez pour un tel sauveur? Trois exemples de personnes qui ont visé le ciel pour s'y constituer des trésors. François d'Assise en sacrifiant tous ses biens, tout son argent. Thérèse de Lisieux qui consacre sa vie à la prière. Hudson Taylor qui met en priorité son appel missionnaire et les relations qu'il a voulu nouer avec le peuple chinois. Bon, comment vous réagissez quand vous voyez ces exemples-là? On se sent motivé ou écrasé? Moi, je me sens plutôt écrasé. Hein. On se dit, oh là là, si investir des richesses dans le royaume de Dieu, c'est ça, c'est pas possible. C'est extrême, quand même, c'est radical. Alors oui, je pense que c'est radical. Le problème, c'est que Jésus est radical. Le problème, c'est que Jésus est radical dans ses propos. Il est radical parce que je pense que nous avons besoin d'être régulièrement un peu secoués. Régulièrement, nous avons besoin d'être remis en cause, peut-être remis face à nos responsabilités aussi, ou face à nos manquements. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais ne soyons pas écrasés. Et je pense que peut-être certains d'entre nous vont avoir un appel tel que Hudson Taylor, ou François, ou Thérèse. Et je pense que pour la majorité d'entre nous, non, nous sommes appelés à vivre aussi une vie peut-être plus « normale », entre guillemets. Mais malgré tout, nous sommes appelés à viser le ciel, à amasser des trésors. Et en tout cas, dans les trois domaines qui sont illustrés par ces personnes, par ces trois ancêtres dans la foi, nous pouvons aussi, à notre niveau, je pense, viser le ciel. Et je voudrais juste terminer avec quelques suggestions pratiques. Donc déjà, imprimez le verset, l'affichez quelque part chez vous. Dans la gestion de notre argent, sans aller jusqu'à la décision de François d'Assise, mais posons-nous juste la question, qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie et qu'est-ce qui est superflu? Voilà. De quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre correctement? Et qu'est-ce qui vient en trop et que je peux aussi redistribuer, redonner? De combien d'argent est-ce que j'ai besoin? Juste se poser la question, enclencher une réflexion sur ce sujet-là. C'est pas simple, et les réponses vont être différentes selon les personnes, selon les contextes de vie. Mais voilà, investir, avoir un trésor dans le ciel, ça peut aussi être redistribuer l'argent dont on dispose pour le royaume de Dieu. Dans la gestion de notre temps, passer 8 heures par jour à prier, Moi, je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si je ferai un jour, peut-être. Hein. Le 13 septembre, il y a une journée de jeûne et de prière à l'église. Ce sera sans doute redonné dans les annonces. On va aussi prendre du temps pour discuter, on ne va pas que prier. Quand j'étais dans l'église d'où je suis originaire, à Lingolsheim, il y avait un prédicateur senior, on va dire, un ancien, qui avait, et ça m'est resté, qui fixait l'objectif de passer au moins 20 minutes par jour connecté à Dieu. 20 minutes par jour. Dans la prière, la lecture de la parole. En tout cas, 20 minutes où on met de côté les écrans, on met de côté ce qui peut nous distraire, on essaye de trouver un endroit plus calme. C'est pas toujours simple hein, quand on a des enfants, quand on est pris, mais voilà, 20 minutes par jour. Ça peut être déjà un premier objectif relativement atteignable. Et enfin, dans la gestion de nos relations, je pense que l'exemple d'Hudson Taylor, c'est un exemple pour changer notre regard sur les autres. Essayer de regarder les autres tels que Dieu les voit, en les aimant tels que Dieu les voit. Dimanche prochain, à cette heure-là, Anaïs, Johanna, Esther, elle n'est pas là, hein, vous serez dans l'avion pour le Laos. Alors, je ne dis pas que vous aurez un appel comme Hudson Taylor et que vous n'allez pas revenir, hein, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est aussi un exemple, votre souhait d'aller découvrir ce pays dans un esprit de service missionnaire, c'est une manière aussi d'investir la relation avec les personnes que vous allez rencontrer, de viser le ciel. Deux jours après, Thomas, Faneva, je crois pas si elle est là, Sarah, Mathilde, moi, on va aller au Rallye Flambeau. Là aussi, passer 15 jours avec des enfants, des jeunes. Il y a d'autres colos. Il y a Charlotte qui est en colo. Il y a eu des... Voilà. Prendre du temps pour se mettre au service des jeunes, développer des relations, essayer de vivre la vie du royaume de Dieu avec ses ados, ses enfants. C'est aussi, je pense, une manière d'investir ses relations avec le regard de Dieu. Aimer ses jeunes, aimer ses enfants, aimer les Laotiens. On pourrait prendre d'autres exemples. Hein. Je prends cela parce que c'est bientôt et c'est aussi des sujets de prière, je pense, pour nous. Il y a des opportunités qui nous sont données pour vivre nos relations en visant le ciel. Ce ne sont que des exemples, hein, la gestion de l'argent, la gestion du temps, la gestion des relations. Je pense que c'est des domaines dans lesquels on peut agir concrètement, à notre niveau, sans se sentir écrasé par les exemples que j'ai donnés, hein, mais c'est plus voilà, l'idée d'avoir cette impulsion, cet encouragement à viser le ciel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Un encouragement, rappelle-toi chaque jour ce qui est le plus important et fonce, vas-y. Et nous ne sommes pas seuls dans cet encouragement, nous ne sommes pas seuls parce que Jésus est là, à nos côtés, par son esprit. On avance par la grâce de Dieu. Et nous ne sommes pas seuls parce que, regardez autour de vous, il y a des sœurs, il y a des frères. On avance sur ce chemin, on vise le ciel, chacun dans nos vies, mais aussi tous ensemble. Tous ensemble en tant qu'Église. Chacun va avancer à son rythme et nous pouvons nous encourager à enlever la casquette, regarder vers le ciel et amasser des trésors. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vous invite à la prière. Et notre Père, nous te remercions pour ces enseignements de ton Fils Jésus qui nous challenge, qui nous bouscule, qui nous rappelle là où est l'essentiel. Merci aussi pour toute cette nuée de témoins qui jalonne l'histoire de ton Église et qui nous montre que c'est possible, qui peuvent être des inspirations. Seigneur, tu vois que nos vies sont parfois compliquées, que que nos quotidiens sont faits de contraintes, de questionnements, de doutes. Mais dans ces contextes-là, tu nous rejoins par ton Esprit Saint. Tu nous soutiens par ta parole et tu nous soutiens aussi par les frères et sœurs. Père, aide-nous à viser le ciel. Aide-nous à nous rappeler chaque matin, oui, qu'il y a un choix à faire. Là où nous voulons mettre notre trésor, là où nous voulons amasser nos richesses. Aide-nous à avancer sans culpabilité, mais avec ce désir de marcher dans tes voies, d'écouter ta parole et de répondre à tes enseignements, à tes instructions. Merci parce que tu es avec nous dans ce chemin et parce que tu nous soutiens et tu nous portes. Amen.